Voici, chers amis de l'histoire, une nouvelle aventure de la Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. La Société vous offre maintenant la possibilité de connaître des tranches d'histoire de nos quartiers, et le tout sous forme de balado que vous pourrez écouter à votre rythme sur notre page Facebook Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. Découvrez ici votre balado. Aujourd'hui, dans ce balado, nous parlons du canal de la Chine, parce qu'on sait que le canal de la Chine traverse une part de l'île de Montréal, du Vieux-Port jusqu'au sud de l'arrondissement de la Chine, où il se jette dans le lac Saint-Louis. Donc, tout ça est tiré de l'Encyclopédie canadienne. Le canal aujourd'hui d'une longueur de 14 km et d'une largeur moyenne d'environ 50 mètres. Il constitue, entre autres, une voie navigable qui permet aux navires de contourner les rapides de la Chine. Ceux-ci ne sont en effet praticables qu'avec l'aide de petites embarcations à très faible tirant d'eau. Au total, une série de 5 écluses est nécessaire pour franchir une dénivellation de 12 à 15 mètres. Sous ces structures d'apparence récente, utilisées aujourd'hui pour la simple navigation de plaisance, se dissimule en fait une histoire vieille de plus de 300 ans, ainsi qu'un cœur industriel délavé, dont seulement quelques reliques sont encore perceptibles sur le terrain. Témoignage vivant de l'histoire industrielle canadienne, le canal de la Chine a été déclaré lieu historique national du Canada en 1996. Le lieu historique national du Canada du canal de la Chine est administré par l'agence gouvernementale Parc Canada. C'est vers la fin du 18e siècle qu'émerge l'idée d'un canal sur l'île de Montréal. Ville-Marie, comme on l'appelait sous le régime français, constitue un carrefour de commerce de fourrures où cohabitent Hurons, Algonquins, Iroquois et Français. D'importantes tensions subsistent alors, dont bon nombre proviennent de relations entre Français et Iroquois. À la base, le projet de canalisation devait servir à alimenter les moulins à eau, en plus d'augmenter la quantité de marchandises en transit sur le fleuve Saint-Laurent. François Dollier-Casson, alors supérieur des Sulpiciens, est le premier à prendre en main le début des travaux. Malheureusement, ces derniers seront interrompus en août 1689 à la suite d'une attaque iroquoise. Les hostilités sont plus tard atténuées par la ratification du traité de la Grande Paix de 1701 entre Français et Iroquois. Les Sulpiciens de Montréal, constituant la principale autorité à l'époque, tentent à maintes reprises de relancer le projet lors de la première moitié du 18e siècle, mais le manque de capital et de sources financières empêche toute progression. Avec les technologies disponibles à l'époque, il demeure extrêmement difficile de creuser le roc, substrat avec lequel les ingénieurs doivent encore apprendre à travailler. Lors de la seconde moitié du 18e siècle, l'Angleterre prend possession des territoires de la Nouvelle-France. C'est en 1775 que les États-Unis lancent une invasion à sol canadien. La guerre démontre qu'il est dorénavant primordial de renforcer les moyens de communication sur le Saint-Laurent dans son ensemble. Une première série de canaux sont bâtis à partir de 1783 entre Montréal et les Grands Lacs. Très rapidement, on observe une augmentation fulgurante du flux de marchandises en transit par ces canaux, en plus d'une augmentation de tonnage des navires. La nécessité de développer et de bâtir de nouveaux canaux est ressentie, ce qui engendre la seconde série de canaux, ne comprenant que le canal Rideau à Ottawa et le canal de la Chine à Montréal. En 1819, 2 ans avant le début de la construction, John Richeson fonde, avec l'ingénieur Thomas Burnett et 6 hommes d'affaires montréalais, la compagnie des propriétaires du canal de la Chine. Leur tentative de financement échoue, et ce n'est qu'en 1821 que le gouvernement fédéral crée une commission pour lancer les travaux. Cette commission comprend pratiquement les mêmes membres que la compagnie des propriétaires du canal de la Chine avec à sa tête M. Richeson et comme ingénieur principal, M. Burnett. 4 ans plus tard, en 1825, le canal de Chine est inauguré. Sa morphologie initiale correspond à une longueur de 14,6 mètres, une longueur de 13,4 km et une profondeur de 1,4 mètres. On cherche ainsi à édifier un empire économique nord-américain majeur sur le fleuve Saint-Laurent. En effet, de par sa situation géographique, le Saint-Laurent présente divers des avantages comparatifs importants qui servent en outre à favoriser son développement économique. On peut notamment parler de sa pénétration continentale qui relie l'océan Atlantique, véritable porte vers le monde de l'Europe occidentale avec les Grands Lacs, soit à plus de 1500 km à l'intérieur des terres. De plus, une bonne part des Grands Lacs se trouve en sol états-unien, rehaussant d'autant plus le potentiel économique du projet. Plus de 500 ouvriers, dont la majeure partie est constituée d'Irlandais, travaillent sur le chantier de la Chine. Durant le 19e siècle, les autorités coloniales britanniques favorisent grandement l'immigration irlandaise vers le Canada. Poussés par une qualité de vie médiocre, en plus de la grande famine d'Irlande des années 1840, les Irlandais débarquent au Canada en nombre très important, constituant une main-d'œuvre anglophone abondante et bon marché, au grand bonheur des dirigeants britanniques. La majorité de ces immigrants s'installent près des grands chantiers à l'époque, soit du pont Victoria, ainsi que celui du canal de la Chine. Ainsi se bâtit tranquillement le fief Nazareth, aujourd'hui nommé Griffintown, le premier et le plus important quartier industriel de l'époque de l'histoire du Canada. Toutefois, cette main-d'œuvre se retrouve divisée en elle-même, ce qui crée de sérieux conflits au sein du corps de travail. En plus des tensions entre francophones et anglophones, les Irlandais sont aussi divisés entre catholiques et protestants. À cette agitation sociale s'ajoutent des conditions de travail exécrables. Vers 1842, ces tensions sont palpables et les accrochages, parfois violents, entre dirigeants et dirigés se multiplient. La jalousie gagne rapidement les corps de travail, réalisant qu'ils sont visiblement moins bien traités que les autres habitants de la région. En 1843, dans le but de pallier à des avancées technologiques importantes de la part des voies navigables états-uniennes concurrentes, ainsi que pour relancer l'économie régionale qui se remet d'une dépression qui a duré de 1841 à 1843, les politiciens mettent tout en œuvre afin que le canal de la Chine soit élargi. Comme les fonds disponibles sont trop limités pour permettre à l'État de continuer les travaux, on cède donc le chantier à une entreprise privée. Par contre, les tensions sociales croissantes entravent la progression des travaux. Ainsi, c'est au début du mois de juin 1843 qu'éclate le conflit ouvrier le plus sanglant de l'histoire canadienne à ce jour, à une époque où toute forme de syndicalisme est encore interdite. Le conflit implique aussi les travailleurs du canal Beauharnois, dure un peu plus d'une vingtaine de jours et fait plusieurs morts et encore plus de blessés. Enfin, cette phase d'agrandissement se termine en 1849 et porte le canal de la Chine à une largeur de près de 37 mètres et à une profondeur doublée, soit d'environ 2,8 mètres. La longueur des bassins des écluses est alors d'environ 61 mètres. Le développement industriel se fait de plus en plus ressentir autour du canal, et c'est en 1847 que commencent à émerger les premières voies de chemin de fer aux alentours du canal de la Chine, grâce à la compagnie Montreal and Lachine Railroad. La seconde et dernière phase d'engrandissement du canal a lieu de 1874 à 1885. Au final, le canal de la Chine a une largeur moyenne de 45 mètres et une profondeur moyenne de 4,3 mètres. Aussi, en 1875, on y intègre réellement le système ferroviaire grâce à la construction de rails qui vont longer le canal, permettant un transport plus rapide et efficace des marchandises sur la quasi-totalité du sol nord-américain. Cette phase lui permet de perdurer comme étant la première zone industrielle en importance de tout le Canada, et ce jusqu'en 1959. Cette date est cruciale dans son histoire car elle représente l'année d'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent qui remplace sans difficulté le canal de la Chine. Effectivement, ces écluses longues de plus de 223 mètres, larges de plus de 24 mètres et sa profondeur de 9,1 mètres permettent à des vaisseaux de tonnage bien plus importants de transiter par le Saint-Laurent de l'Atlantique jusqu'au Grand Lac. L'utilisation du canal de la Chine décline rapidement jusqu'en 1970, où l'on annonce officiellement sa fermeture. D'autant plus que ses principales infrastructures nécessitent une revitalisation urgente. Les plus gros bateaux qui empruntaient encore cette voie l'abîmaient souvent de par leur taille trop imposante. L'histoire du canal de la Chine ne s'arrête pas là. Dès 1974, le gouvernement du Canada cherche à réaménager le site afin de limiter les espaces non utilisés. Ainsi, après 4 ans de nettoyage et de remodelage territorial, et dans le but de souligner l'importance du rôle économique du site, Parc Canada en devient l'administrateur. Une piste cyclable y est aménagée sur tout son long. Donc, à ce moment-là, c'était pour les bicyclettes. Ces nouvelles vocations permettent donc aux habitants de la région métropolitaine de se réapproprier le territoire puisque ces infrastructures étaient pratiquement tout laissées à l'abandon. La reconnaissance de sa valeur historique passe également par de nombreuses études menées par Parc Canada sur les structures physiques du canal et son importance dans l'industrialisation et l'urbanisation du Canada. En 1996, le canal de la Chine est déclaré lieu historique national canadien. Et finalement, en 2002, le gouvernement rouvre le canal à des fins de navigation de plaisance. Les plaisanciers peuvent donc naviguer en amont et en aval de l'île de Montréal en empruntant à leur tour les écluses du canal de la Chine. De nos jours, son paysage est transformé. Le vieux quartier de Griffintown, qui s'était vu pratiquement vidé de tous ses habitants à la suite des fermetures massives des entreprises qui s'y étaient établies, renaît de ses cendres avec un boom immobilier, commercial et artistique. On y trouve entre autres la cité du multimédia, parc technologique, qui héberge plusieurs entreprises à la fine pointe du savoir-faire en ce qui concerne les technologies. Donc voilà un peu une partie de l'histoire du canal de la Chine.